824 Atlantic Avenue, Cocoa, en Floride. 5 jours plus tard.
Y a quelqu'un ?
Dans la cuisine.
The Sandman. Dans la nuit.
Salut Al. Salut vous deux.
Salut chérie. Alors ils ont fini par te renvoyer de l'hôpital, hein ?
T'as l'air crevée, Rose.
Comment il va ?
Toujours pareil, Barbie. Dans les vapes. Une commotion. Et il est très déshydraté. Ils l'ont mis... sous perfusion.
Oh, ça doit être...
compliqué. Ken et moi, on...
n'aime pas les hôpitaux, pas vrai, Barbie ?
Terriblement pas.
Non. Non, j'aime pas trop les hôpitaux non plus.
Je te prépare un verre.
Bonsoir, colocataire. Zelda et moi, nous avons tout spécialement reculé l'heure de notre coucher de façon à pouvoir vous redonner force et espoir pour faire face à vos problèmes actuels.
Bonsoir, mesdames. C'est très gentil à vous.
Nous étions... Zelda a une homélie morale réconfortante, évoquant Dieu, les moments difficiles et un nombre variable d'empreintes de pas dans le sable. Mais oui. Elle me l'a dit une fois, et ça m'a admirablement remonté la morale.
C'est gentil, je l'écouterai plus tard. Merci, si vous voulez bien. Merci Chantal, merci Zelda.
Je crois qu'on a tous besoin de sommeil, et toi plus que les autres. Tiens Rose, je t'ai préparé une tisane, tu la bois et puis au lit.
Merci.
Bonne nuit, Rose Walker. Zelda vous souhaite bonne nuit aussi.
Bonne nuit.
Dors bien.
Oui, bonne nuit. Désolée, Al. C'est juste que j'aimerais tellement que ma mère soit là. Je m'assois à côté du lit de Jed et j'attends qu'il reprenne connaissance en me demandant dans quel état il sera à ce moment-là.
C'est normal.
Oui, mais ma mère doit rester en Angleterre pour s'occuper d'Unity. Je comprends pas bien. Pourquoi il faut qu'ils soient tous les deux malades en même temps ? Je devrais pas être ici toute seule. C'est la place de ma mère. Bonne nuit, Al.
Bonne nuit.
Je me sens tellement plus vieille qu'à mon arrivée ici. En 3 semaines, j'ai retrouvé une grand-mère inconnue et un frère que je croyais perdu. Et maintenant, je risque de les perdre tous les deux. Endors-toi, Rose. Je peux pas, je suis trop inquiète. Je suis tellement fatiguée, épuisée. Je voudrais pouvoir dormir.
Tandis que Rose lutte pour trouver le sommeil, les autres occupants de la maison sont déjà profondément plongés dans leurs rêves. Barbie et Ken dorment. Elles portent une chemise de nuit rose à froufrou. Ils portent un pyjama. Ken rêve. Le sourire éclatant de Ken a disparu. Son visage bronzé de surfeur a les sourcils froncés d'inquiétude.
Je te parle d'argent, gamin. Est-ce que tu m'écoutes ? Peut-être même 100 000.
Dans ses rêves, il peut tout avoir.
Mais moi, je te parle d'argent, gamin. Peut-être 100 000, ou même plus.
Ou bien tout perdre.
Je te parle d'argent, gamin. Est-ce que tu m'écoutes ?
Barbie rêve. La vie onirique de Barbie est étonnamment complexe. Une histoire continue et poétique de magie et d'émerveillement, où elle devient la princesse Barbara. Des cheveux blonds jusqu'à la taille, une robe de circonstance et des lunettes de soleil. Chaque nuit, elle se met en quête d'un trésor perdu, accompagnée par un animal fantomatique canin, immense et échevelé, Martin Dizot. Et enfin, elle touche presque au but. Martin et elle sont à l'intérieur de la cage thoracique d'une très vieille créature, plus grande que le dernier des dinosaures. Devant eux se trouve un objet taillé comme un diamant, avec des pointes acérées dressées sur chaque facette, une sorte d'étoile stylisée. Elle scintille à la lueur du soleil qui trône tout en haut d'un grand ciel bleu.
Oh, Martin Dizot, j'ai du mal à croire que nous soyons enfin arrivés là, devant l'arche du Porpentin.
Oui, notre voyage fut bien long, mademoiselle Barbara. Et nous avons croisé de nombreux compagnons héroïques pour en perdre tout autant.
Tant de vies tristement perdues, Martin Dizot. Et tout ça pourquoi ? Maintenant que je le tiens entre mes mains, je me rends compte qu'il ne s'agit que d'un mélange d'argent et de quartz rose. Ce n'était que pour ça.
Le Porpentin est bien plus que ça, madame. Comme vous le savez au plus profond de votre âme. Maintenant, tenez-le bien et grimpez sur mon dos.
Oui, quittons cet endroit.
N'oubliez pas, si le Porpentin est détruit par le coucou, alors le hiérogramme sera perdu pour le monde à tout jamais.
Martin Dizot, je n'ai pas à craindre les disciples du coucou, tant que tu seras à mes côtés.
Et je ne vous abandonnerai jamais à votre quête, madame. Pas tant que je vivrai. Non, jamais.
Non, non, jamais, Martin Dizot.
Chantal et Zelda dorment. Les femmes araignées sont dans leur immense lit à baldaquin, dont les rideaux en haillons rappellent une voile ou une toile. Les araignées empaillées au mur les observent, perdues dans deux rêves distincts sous le suaire de leurs draps. Chantal rêve.
Oh oui, j'ai déjà connu l'amour avec une phrase.
Vous savez comment c'est ? Une rencontre fortuite qui s'est transformée en bien plus pour nous deux. Nous aimions les mêmes choses.
Je l'ai emmenée dans une soirée. On a eu un franc succès.
Le couple parfait. Tout le monde était au courant pour la phrase et moi. La phrase a passé la majeure partie de l'an dernier en Tchécoslovaque pour des raisons politiques, mais elle a fini par être retraduite en anglais. Pour empêcher la phrase d'être déportée, j'ai fait en sorte qu'elle puisse être lue à la bibliothèque du Congrès. Cela étant, le moment venu, j'ai découvert que je ne savais plus lire. Non, je n'ai pas la moindre idée de ce que signifie ma phrase.
Abattue et triste, Chantal se met à pleurer. Zelda rêve.
De plus en plus très curieux.
Zelda est une petite fille, aux longs cheveux blonds vêtue comme Alice au Pays des Merveilles. Elle traverse un cimetière en pleine nuit. L'endroit est à mi-chemin entre une maison des horreurs et une nécropole, avec d'immenses pierres tombales et monuments cyclopéens penchés à des angles étranges, comme un film muet allemand expressionniste. Il fait nuit. Des araignées ont tissé leur toile.
Maman et papa m'ont dit de partir, alors me voilà dans le vieil ossuaire. Personne ne me comprend, tout le monde s'en fiche, personne d'autre ne comprend. La beauté de la nécropole perdue, le charme charnel.
Chantal apparaît dans le cimetière. Un voile de toile d'araignée sur le visage, ses traits presque impossibles à distinguer.
Oh, mais voilà Chantal qui approche, ma vraie sœur spirituelle, et elle me montre ses héroïnes gothiques, les fiancées interdites des esclaves sans visage dans le manoir secret de la nuit du désir redoutable.
D'un grand geste, elle prend la petite Zelda dans ses bras et la tient un instant au-dessus de sa tête.
C'est nous, avec Melmoth, nous longeons les couloirs d'Otrante.
Mais levant les yeux vers le visage sous le voile, Zelda revoit sa mère trouver le crâne du rat dans sa chambre autrefois. Et tandis que Chantal lève la main pour soulever son voile, cette vieille crainte refait surface.
Et Chantal dit, je vais retirer mon voile, Zelda, et je sais que ce sera ma mère qui me dira.
Mon Dieu, Zelda, tu es folle ? Écoute ça, Robert, tu sais ce que je viens de trouver dans sa chambre. Ta fille est une petite dégoûtante.
Et je vais me mettre à bredouiller et elle se moquera de moi.
Mais alors, petite idiote, tu crois à Godzilla ?
Pourvu que ce soit Chantal et pas ma mère, pas ma mère, pas ma mère, pitié, mon Dieu.
Et Chantal soulève le voile de toile. Et ce n'est pas sa mère.
Merci, Seigneur, oh, merci.
C'est une énorme tête d'araignée aux yeux multiples, aux mandibules actives.
Et la petite Zelda éclate de rire.
La petite fille...
rit.
Et... aïe.
Al rêve. Al, nu et homme, est assis au bord de la Seine dans un nightclub décoré pour ressembler à la salle du trône dans Le Magicien d'Oz. Al rêve de Betty et de Judy et de Marilyn. Elles sont là pour lui révéler le grand secret. Il a toujours soupçonné l'existence d'un grand secret.
Ok, Dolly, écoute bien, parce qu'on ne te le répétera pas.
Je l'ai perdu. Mon rêve. Un bon rêve. Réveillé un peu. Ok. J'y retourne. Je me mets bien au chaud, dans mon confort, dans... Quoi ? De quoi est-ce que je rêvais ? Judy Garland ?
Bien entendu, ce n'est pas mon vrai visage, Al.
Et ça, ce n'est pas mon vrai visage non plus.
Al, tu vas devoir m'aider, je n'ai pas assez de mains.
Ne regarde pas l'homme derrière le rideau.
Rose ne dort pas.
Endors-toi, Rose Walker. Oublie ta journée, détends-toi.
Allô, Rose ? C'est maman.
Remets la journée à sa place, Rose.
Écoute, ma chérie, Unity a fait une sorte d'attaque. Elle a presque 90 ans, je peux pas la laisser. Pas maintenant.
Oublie tous les événements bizarres de ces dernières semaines. T'en as pas besoin.
Désolée, mademoiselle Walker. Très franchement, il y a une chance sur deux. D'un côté, c'est un miracle que votre frère soit encore en vie, mais bon, il est jeune. Rentrez chez vous. On vous appellera dès qu'on aura des nouveaux.
Oublie l'homme aux oreilles de loup qui t'a fait du mal et qui voulait te faire bien pire. Oublie l'étranger tout pâle aux yeux comme des étoiles. Est-ce qu'il était vraiment là ? Quand tu essaies de te souvenir de lui, il s'efface en scintillant jusqu'à ne plus être que le vague écho d'un rêve. T'es crevée, Rose. Termine ta journée. Laisse-toi sombrer. Doucement. Tout au fond. Vers l'intérieur. Entre dans un monde où tout finira par s'arranger. Unity va s'en sortir. Jed va s'en sortir. T'es épuisée. Abandonne-toi. Oui, Gilbert. Ça fait presque une semaine que je ne l'ai pas vu. Depuis qu'on est rentré de Floride avec Jed, mort de faim et déshydraté, la peau à vif. Non. Oublie ça. Tu auras le temps d'y penser. Demain. Gilbert. Et dors. Et rêve. Gilbert.
Pardon, monsieur ?
Homme ?
Les visites sont terminées depuis longtemps.
En effet, excusez-moi. Infirmière, j'étais en train de partir. Je passais simplement prendre des nouvelles du garçon dans cette chambre. Lui dire bonjour, je suis un ami de la famille.
5 minutes.
Oh, merci.
Thank you.
Home.
Dans le monde des rêves, en plein air, Morphée, le seigneur des rêves, se tient tout au sommet d'un affleurement en granit sculpté. Il rumine ses pensées, tout en observant fixement ce qui ressemble à un tourbillon de poussière en lente rotation, qui gagne de l'énergie et de la vitesse sous ses yeux. À côté de lui se trouve un perchoir pour oiseaux, orné, et un grand corbeau noir descend le rejoindre.
Ainsi donc, ça recommence. Le premier vortex de cette ère. Cela dit, celui-ci a quelque chose de spécial cette fois, et je ne le comprends pas.
Pour être franc, j'ai encore un peu de mal à suivre tout ce qui se passe ici. C'est quoi ce machin ?
C'est le vortex, Matthew. Et c'est aussi Rose Walker. Et il grandit.
Qu'est-ce que ça veut dire, chef ?
Ça veut dire différentes choses, Matthew. Mais tu n'as pas à t'en inquiéter pour le moment. Ta place est auprès de l'enveloppe physique du garçon. À l'hôpital, il y a quelqu'un que tu dois m'amener.
J'aime pas les hôpitaux.
Pour ma part, je dois m'occuper de ce vortex comme je me suis occupé des précédents. Comme je dois m'occuper de tout ce qui menace le songe.
Le rêve de Ken.
Non. Allez, mon grand. Fais ça pour moi.
Fais-le.
Kenny.
Fais-le.
Oui.
Non.
Oui.
Oui.
Le rêve de Barbie.
Cet endroit me met mal à l'aise, princesse. Si les forces du coucou veulent nous attaquer directement, elles vont devoir agir avant que nous atteignions la mer au vif éclat.
Je comprends.
Prudence, princesse Barbara. Je sens une étrangeté dans l'air.
De qui parles-tu, Martin Dizo ? Le coucou ? Le héros ancien ? Le colonel Savoir ?
Rien de tout ça. Il se passe quelque chose, princesse. Écoutez.
Chantal rêve.
C'était par une noire nuit d'orage.
Pas vraiment dans un cauchemar, mais plutôt mal à l'aise. Chantal est prise, tel un disque rayé, dans une boucle de récit toujours plus courte.
C'était par une noire nuit d'orage. Et le capitaine dit au matelot : Matelot, raconte-moi une histoire. Et voici l'histoire qu'il raconta. C'était par une noire nuit d'orage. Et le capitaine dit au matelot : Matelot, raconte-moi une histoire. Et voici l'histoire qu'il raconta. C'était par une noire nuit d'orage. Le capitaine dit : Histoire ! Voici l'histoire. Noire nuit d'orage. Noire nuit d'orage. Histoire.
Zelda rêve.
Chantal veut qu'elle raconte une histoire et elle dit : En septembre de l'an 1911, une chaise de poste s'arrêta devant la porte du manoir d'Azwarby, au cœur de Lincolnshire. Le garçonnet qui en sauta dès l'arrêt regarda autour de lui avec la plus vive curiosité durant le court laps de temps entre le tintement de la cloche et l'ouverture de la grande porte.
Al rêve. Il voit Robert à nouveau. Pas le Robert des derniers temps qui s'était avéré puéril, égocentrique, malhonnête.
Robert.
Non. C'est le Robert qu'il avait espéré, le Robert dont il avait rêvé. Amical, ouvert, magique. Il entend leur chanson qui passe en fond sonore. Rose rêve. Elle sait qu'elle rêve. C'est la première fois qu'elle fait ce genre de rêve. Tout y semble si réel, si net, plus vrai et plus vital que le monde de l'éveil. Elle n'a jamais été aussi sûre et certaine de son identité. Elle sent son corps endormi sur le lit en dessous d'elle. Elle n'en fait pas partie. Elle est la vraie rose, son essence. Avec hésitation, elle élargit ses perceptions. Elle voit la maison de Hall de l'extérieur. Mais ses murs et ses plafonds sont coupés, comme une maison de poupée, grande ouverte. Tous ses occupants naviguent au travers de leurs rêves. Elle les sent. Chantal, aux rêves complexes, sans cesse mis en abîme, tentant de ne rien dévoiler d'elle-même à elle-même. Zelda, empêtrée dans de vieux combats, petite fille perdue dans la femme dont elle partage le cœur. La riche vie onirique de Barbara.
Si le Porpentin est détruit par le coucou, alors le hiérogramme sera perdu pour le monde.
Plus vrai et fidèle que tout ce qu'elle ressent éveillée. Le monde de Ken qui brasse l'argent, le sexe et le pouvoir. La quête infinie d'identité et d'amour de Hal. Tous cherchent un endroit où ils auraient leur place. Tous cherchent un endroit où ils seraient à l'abri. Et elle voit comme tout est simple. Elle voit à quel point les murs qui les séparent sont en réalité minces et fragiles, comme il serait facile de les faire tomber. Elle concentre son esprit et les pousse. Et les murs s'effondrent tous.
Barbie, c'est toi ? On est où ?
Ken ? Qu'est-ce que tu fais sur le site de Carnadine l'oublié ?
Le quoi ? C'est quoi tout ça ?
C'est comme un tourbillon de rêves. Ni liquide, ni solide. Comme un gaz épais. Ou de l'encre versée dans l'eau. Comme des nuages. Ça et là, on peut voir des fragments de visages et d'images en lente rotation. Flottant au centre de ce maelstrom, se trouve Rose, endormie. Les cheveux détachés, comme battus par un vent violent. Elle brille. Être de lumière pure, presque transparente, sa robe traînant dans les ténèbres, bien au-delà des songes. Les autres rêveurs sont piégés dans le vortex.
Chantal, j'ai peur. Qu'est-ce qui nous arrive ? Je crois que nous rêvons, Zelda. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. C'est Rose ? Je suppose. J'ai du mal à voir.
Ken ? Barbie ? Eh oh ! Vous m'entendez ? Est-ce que je dors ? Est-ce que je rêve ? Et vous ?
Et au-delà, elle les sent. Partout dans la ville, un défilé d'esprits endormis. Chaque esprit crée et habite son propre monde. Et chaque monde est une part infime de cette totalité qu'est le songe. Et elle peut les toucher. Tous les toucher. Elle commence à les libérer, à les lâcher dans le courant. De part et d'autre de la ville, des rêves se rejoignent et s'intègrent. Et ce faisant, ils transforment les rêveurs à jamais. Et Rose, toujours en songe, mais plus éveillée que jamais, comprend, folle de joie, que tout cela n'est qu'un commencement.
Les rêveurs sont si nombreux. Si nombreux.
Les perceptions de Rose s'élargissent. Tant de nouvelles choses. Les rêves brutaux et imposants des très jeunes. Le fin lacis de dentelle des souvenirs des très âgés. Et puis les autres, tous les autres. Ce serait tellement simple de créer un seul grand rêve. Et puis, elle sent des mains sur ses épaules.
Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Tu as provoqué d'énormes dégâts. Mais rien que je ne puisse réparer, pour l'instant. En tout cas, je suis le seigneur de ce royaume, Rose Walker. Et je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation.
Ken se réveille, troublé et excité. Il se presse contre Barbie, surpris de constater qu'elle aussi est réveillée. Et qu'elle est en larmes.
Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu pleures ?
Je ne sais pas.
Il lui dit alors des choses, dans l'obscurité, qu'il en viendra plus tard à regretter. Dans la chambre de Chantal et Zelda, les deux femmes se réveillent, effrayées et seules. Elles ne parlent pas. Elles se serrent dans le noir, comme des sœurs, jusqu'au petit jour.
merde.
Al se réveille avec une frayeur sourde tout au fond de l'estomac. À travers la mince cloison, il entend la voix de Ken, trop basse pour qu'il puisse en distinguer les mots. Pendant un temps, il reste assis dans la pénombre. Puis, il prend sa lampe torche et il monte aussi silencieusement que possible l'escalier en bois qui grince.
Rose ? Rose ? T'es réveillée ? Rose ? Non.
Rose n'est plus là. Et d'une certaine manière, ce n'est pas une surprise pour Al. À plus de 6000 km à l'est, il est 4h30 du matin dans la maison de retraite. Voilà maintenant 2 jours que Miranda Walker n'a pas dormi. Sa mère, la grand-mère de Rose, Unity Kincaid, est allongée dans sa chambre. Une lumière douce illumine son visage, encadré de cheveux gris qu'elle ne peut plus remonter en chignon. Elle ouvre un peu les yeux. Sa fille veille sur elle.
Miranda.
Tout va bien. T'es en sécurité. Je suis là.
La maison de poupée.
Elle est là. Tout va bien.
Je crois que la maison de poupée devrait revenir à Rose. Mais elle est peut-être un peu grande pour
non.
ça.
Non, je crois que ça lui fera plaisir.
Très bien. J'aimerais que mes parents soient là avec moi. Ça ne serait pas si dur. Je n'aurais pas peur de mourir s'ils étaient là. Mais au moins, tu es là avec moi, Miranda. Et il me reste si peu de temps. Reste avec moi. J'aurai moins de mal à lâcher prise.
Et puis Unity se rendort à nouveau. Miranda s'approche de la fenêtre. Elle regarde l'aube grise et elle pense...
J'avais pas besoin de ça. J'ai un fils au bord de la mort à 6000 km d'ici. J'ai une mère en train de mourir devant moi. Quel genre de choix ça me laisse, ça, Seigneur ? Si vous m'entendez. Si quelqu'un m'entend.
Ce n'est jamais facile. Elle sent le froid de la vitre contre ses paumes. Et elle pense...
Au moins, Rose va bien, elle.
Oui ! C'est tellement bizarre. Mais ce n'est qu'un rêve, n'est-ce pas ?
D'une certaine manière.
C'est la première fois que je rêve que je vole. Dites, qui que vous soyez, vous savez ce que Freud disait des rêves où on vole ?
J'écoute.
Ça veut dire qu'en fait, on rêve qu'on fait l'amour.
Ah, tiens. Mais alors, dis-moi... Quand on rêve qu'on fait l'amour, qu'est-ce que ça signifie ?
Où est-ce qu'on va ? Oh, ok. Une sorte de désert. Et qu'est-ce qui se passe ici ?
Ça a commencé.
Ah, salut ! Brrr. À cet endroit... Ça me fout les... Comment on dit déjà ? Les jetons. Mais j'ai mes raisons, hein. Ouais. Avant d'être un corbeau, j'étais un humain. Un agent du gouvernement, en plus. Je suis mort dans le coma, dans un endroit tout pareil. Techniquement, c'est comme mourir en dormant, tu vois. Ça fait qu'on se retrouve résident permanent du songe. Alors maintenant, je suis un corbeau. Je travaille pour le patron. Entre nous, je sais pas pourquoi il voulait que je vienne ici. Je suis même pas sûr que tu puisses m'entendre.
Non, je doute qu'il puisse vous entendre, mais moi, oui.
Oh, salut.
Je suppose que c'est vous que j'attendais, ou quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui viendrait du songe pour me raccompagner. Mais j'aurais cru qu'il viendrait en personne, cela dit. Ou qu'il m'enverrait quelqu'un que je connais. Je ne vous reconnais pas, petit oiseau.
Ah non, il faut dire que j'ai débuté il n'y a pas longtemps. C'est un peu nouveau. Mais je commence à m'habituer. Je crois que je préfère être un rêve plutôt que d'être un homme.
Mm-hmm.
J'ai fait des trucs moches vers la fin. Enfin, vous voyez le genre, vous savez comment c'est. Disons que je suis content que tout ça soit derrière moi, et dans une autre vie.
Cela se passait dans un autre pays. D'ailleurs, la donzelle est morte. Je vois. Donc, vous étiez en vie, et puis vous êtes devenu un rêve. Hum. Moi aussi, j'étais un rêve autrefois. Mais je suis parti. Et pour tout dire, je prends un certain plaisir à être en vie. Enfin, tout a une fin. La vie va me manquer. J'avais l'impression de plutôt bien me débrouiller. Et je crois que Mademoiselle Rose Walker me manquera.
Le vortex ?
Rose est un vortex ? Oh ! Oh Seigneur, j'aurais dû m'en rendre compte.
Oui, mais c'est pas grave. Le patron a dit qu'il allait s'occuper d'elle. Apparemment, il y en a eu plein d'autres des vortex dans le temps, et il s'est occupé de ceux-là aussi. Ha ! Et comment il fait exactement ?
Comment ? Il met un terme à leur existence physique, petit oiseau. Pour protéger le songe, c'est la seule situation où il peut prendre une vie humaine. Oh, c'est l'une des règles.
Comment ça ?
Il va devoir la tuer !